Les Français ne sont pas en désamour du travail, ils sont juste en attente de pouvoir mieux travailler dans de meilleures conditions, ce qui implique de re-questionner les conditions d'emploi et de travail aujourd'hui offertes par les entreprises. Et donc aujourd'hui, il y a un enjeu à ce que les entreprises, les politiques organisationnelles, les politiques RH soient en capacité de s'élever au niveau de ces fameux curseurs de l'acceptabilité au travail tels qu'ils sont revendiqués aujourd'hui.
Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit, avec un invité, une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure.
Experts en la matière.
Aujourd'hui, nous recevons Justine Kieffer. Bonjour.
Bonjour Margot.
Justine Kieffer, vous êtes consultante chez Alternego, spécialiste de la qualité de vie et des conditions de travail. Vous êtes notre invitée aujourd'hui pour nous parler du quiet quitting, ou bien démission silencieuse en français. Le démissionnaire silencieux, c'est ce salarié qui ne cède plus à la pression, à la charge de travail qu'on lui impose au quotidien. Il se contente de réaliser les tâches essentielles, compte ses heures, se désengage professionnellement et même émotionnellement de la vie de l'entreprise. Des États-Unis à la France, ce phénomène jugé grandissant, presque épidémique ces dernières années, a agité le monde des ressources humaines. Mythe ou réalité, vous avez consacré un article à ce sujet en janvier dernier pour mieux comprendre les revendications profondes qui se cachent derrière ce vaste mouvement. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce phénomène ?
Je pense que chez Alternego, et de par le métier que l'on exerce au quotidien, la question du travail et le rapport que l'on entretient avec le travail est central, que ce soit à travers nos différents terrains d'intervention, mais aussi nos questionnements individuels et aussi nos espaces de réflexion collectifs. Et c'est précisément dans un espace de réflexion collectif que nous avons été amenés à rebalayer les grandes tendances RH qui ont marqué les médias, qui ont inondé les médias, et on ne pouvait pas faire l'impasse du phénomène des quits qui, durant l'année 2023, a vraiment inondé que ce soit les réseaux sociaux mais également les différents médias. Moi, ce qui m'a questionnée, ou je dirais plutôt interpellée, c'était de voir les titres accrocheurs qui permettaient de qualifier ce qui se cachait derrière les quits. On voyait des titres qui pointaient du doigt le fait que les Français seraient devenus, entre guillemets, flemmards, ou que les Français seraient devenus globalement détachés du travail. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'était de mettre en contraste ces titres accrocheurs par rapport à la réalité du terrain et ce qu'on voit quotidiennement quand on accompagne nos clients, notamment dans des terrains d'intervention où les climats sociaux sont un petit peu dégradés. Et l'idée que j'en avais, c'était de me dire que je ne pense pas que les Français soient, entre guillemets, en désamour du travail. Je pense que au contraire, ils sont exposés aux maux du travail de par le fait qu'ils ne puissent pas faire un travail de qualité. Donc ça a été le premier point qui m'a interpellée, et le deuxième point, une question plutôt naïve, je me suis dit, mais où est-ce que sont donc passés tous ces démissionnaires ? Est-ce qu'ils ont vraiment quitté le monde de l'entreprise pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale ou dans une aventure associative ? C'était vraiment un questionnement que j'avais, et je me suis dit que l'analyse qui était réalisée par les médias ne pouvait pas être aussi blanche ou aussi noire qu'on pouvait le penser, et qu'il y avait un vrai enjeu de pouvoir identifier et décrypter ce qui se cachait derrière le phénomène des quits, notamment à travers le prisme des sciences sociales, pour pouvoir redonner un petit peu plus de profondeur au débat. Donc ça a été vraiment la genèse de ce projet d'article.
Alors, vous introduisez votre article par des données très concrètes. En 2021, vous dites « Le mouvement démarre avec une vague de démission sans précédent aux États-Unis. On compte près de 48 millions d'Américains qui se retirent de leurs fonctions. » Et en France, pendant ce temps-là, un niveau de démission historique s'observe aussi, avec 520 000 démissions, dont 470 000 de CDI. Comment est-ce que vous analysez ces vagues de démissions qui sont objectivement importantes ?
Effectivement, je pense que le premier point qu'il est nécessaire d'aborder, c'est de préciser que ce Big Quit, ça a été le premier phénomène de la trilogie des quits qui a ensuite inondé les médias et le marché du travail. Pour pouvoir réaliser cette analyse, je me suis appuyée sur des données plutôt objectives et notamment l'analyse qui a été réalisée par la DARES. La DARES met en perspective la grande démission qui a eu lieu en France en la recontextualisant dans le contexte qui était la sienne, à savoir un contexte post-Covid, où nous étions confrontés à une reprise économique marquée par une espèce d'embellie conjoncturelle qui s'est traduite elle-même par de nouvelles opportunités professionnelles. Et ce que ça a généré sur le marché du travail, c'est que les salariés qui étaient les salariés, les agents, les opérateurs, qui étaient plutôt insatisfaits de leur emploi et des conditions dans lesquelles ils l'exerçaient, ont été eux aussi en capacité de pouvoir voguer vers de nouveaux horizons. Donc ça, c'est le premier élément. La DARES complète cette analyse en disant que le marché du travail post-Covid détenait un taux d'emploi qui était plus élevé qu'avant la période du Covid. Et elle conclut son analyse en précisant que parmi l'ensemble des démissions qui ont eu lieu en France, il faut savoir que 8 démissionnaires sur 10 auraient été en emploi 6 mois après leur démission. C'est là qu'on voit que le constat n'est pas aussi dramatique que l'on pouvait l'envisager et que ça n'a pas insufflé un tel vent de panique tel qu'on pouvait le considérer à la lecture de la une des journaux. Et je pense que ce qui est intéressant à retenir dans ce premier volet d'analyse, c'est ce que ça nous dit, c'est ces vagues de démission ont eu lieu dans un contexte économique qui était plutôt favorable et les salariés s'en sont saisis. Est-ce que ça a généré? C'est tout simplement une inflexion dans le rapport de force historique entre employeurs et salariés, là où les salariés, les agents, ont été dans une situation plutôt favorable pour pouvoir renégocier leurs conditions de rémunération et leurs conditions de travail.
Dans la même période, on va parler d'une pénurie de main-d'œuvre, alors que le marché du travail semble regorger d'emplois vacants. Et là encore, beaucoup d'analyses vont conclure à un relâchement collectif, une perte du goût de l'effort. Vous, en réponse, vous parlez d'un déplacement des curseurs de l'acceptabilité au travail. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous mettez derrière cette expression ?
Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais pouvoir retracer un petit peu le fil de ma pensée et le cheminement de ma réflexion, enfin une réflexion qui a été aussi collective avec mes collègues d'Alternego. Donc on est déjà revenu sur le premier phénomène des quits qui a été celui du Big Quit. Juste après le Big Quit, on a effectivement assisté à une espèce de pénurie de main-d'œuvre, notamment dans des secteurs d'activité qui étaient d'ores et déjà en tension. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait une multitude d'emplois vacants qui ont bien évidemment provoqué le désolement des employeurs dans un marché du travail où l'on dénombrait presque 5 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Face à ce constat, il y a un espèce de paradoxe qui a émergé, qui était celui des employeurs qui étaient entre guillemets en attente de travailleurs et de l'autre, on avait des individus qui étaient eux en demande de travail. Et moi, cette coexistence, elle m'a vraiment interpellée et je me suis questionnée sur la raison de ce delta entre l'offre et la demande, entre guillemets. Là où j'ai été assez interpellée, c'était de voir de quelle façon le consensus populaire finalement pointait du doigt l'idée selon laquelle les Français ne voulaient pas bosser entre guillemets, puisqu'on avait une multitude d'emplois vacants avec une multitude de personnes en demande d'un travail, donc pourquoi l'offre et la demande ne se rencontrent pas? Et je pense que le vrai fond du problème, en tout cas ce qui m'a permis de pouvoir tirer le fil et de parler d'un déplacement des curseurs de l'acceptabilité au travail, c'était tout simplement de se dire qu'aujourd'hui, les Français veulent bien travailler, mais pas à n'importe quel prix et ni dans n'importe quelles conditions. Ça a été vraiment la deuxième brique qui m'a permis d'aller doucement vers ce concept des curseurs de l'acceptabilité au travail. Et le troisième événement, qui a été celui du quiet quitting, donc qui est arrivé, en tout cas qui a inondé là encore un petit peu les médias il y a un an environ. Le principe du quiet quitting, c'était de se dire « je fais mon job, rien que mon job, et je ne me tuerai point à la tâche ». Donc, c'était de se dire « j'en ai marre de faire des heures supplémentaires, j'en ai marre de faire preuve d'une disponibilité à toute épreuve, et je ne me tuerai pas au travail ». Donc, on assiste là encore à un espèce de relâchement collectif, un espèce de désengagement, et là encore, l'opinion populaire s'est traduite par le fait que les Français étaient devenus entre guillemets des flemmards, et quand ils bossaient, ils étaient plutôt devenus adeptes du tournage de pouce au boulot.
Est-ce qu'il y a des aspects plus précisément sur lesquels vous avez senti que les travailleurs posent des limites ?
Bien sûr, les limites qui ont été posées et ce que j'évoque à travers cette idée de curseur d'acceptabilité au travail, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne veulent plus travailler n'importe comment et à n'importe quel prix. Donc, ce qui invoque de pouvoir arrêter de travailler dans des conditions de travail entre guillemets dégradées, que ce soit en termes d'outils, que ce soit en termes de moyens, que ce soit en termes de manque de personnel, où on est toujours pris dans des injonctions paradoxales de devoir toujours faire plus, mais avec moins de moyens. Il y a aussi des choses qui se jouent au niveau du management, avec tout ce qui relève du micro-management et des pratiques managériales qui peuvent être toxiques sur un collectif d'individus. On a également tout ce qui se joue au niveau de l'équilibre des temps de vie, de l'autonomie qui est accordée aux travailleurs, dans le cadre de leur périmètre d'activité. Voilà, ça relève à la fois du cadre, ça relève des process et ça relève du fond du travail.
Vous évoquez aussi dans votre article le modèle à la hâte qui a été qualifié ainsi par Corinne Vaudard et Serge Volkoff qui ont consacré un essai au sujet intitulé « Le travail pressé ». Pour résumer en quelques mots, c'est un modèle de plus en plus répandu dans les entreprises et qui se traduit par une tendance à l'hypervitesse, l'hyperflexibilité et la surperformance. De votre point de vue, est-ce qu'il y a des stratégies au niveau de l'entreprise pour y remédier, pour repenser autrement l'organisation du travail et pour permettre aux ressources humaines d'aborder ce grand chantier?
C'est un grand chantier et je pense que la réponse n'est pas aussi facile qu'on peut l'imaginer, ou en tout cas ne se limite pas qu'au champ des politiques des ressources humaines. Chez Alternego, dans le cadre de nos différents terrains d'intervention, que ce soit dans le cadre d'un diagnostic partagé, que ce soit dans le cadre d'une gestion de crise chez nos clients ou que ce soit dans le cadre d'une mission de conseil à titre préventif, on aime bien décrypter les environnements dans lesquels on intervient à travers une grille d'analyse systémique qui est la grille IGOS, I pour les individus, G pour le groupe, donc à savoir les collectifs de travail avec la ligne managériale, O pour l'organisation et le S de système. Donc, je vais essayer de structurer ma réponse à travers ces différents niveaux d'analyse. Ce qui, selon moi, se joue au niveau du système, et là, c'est ma conviction personnelle, c'est qu'aujourd'hui, les organisations évoluent dans des écosystèmes qui sont eux-mêmes régis par un cadre légal, par des politiques, par des idéologies, et aujourd'hui la politique néolibérale dans laquelle s'inscrivent les entreprises considère le travail à travers sa valeur économique, et donc le travail devient plutôt une variable d'ajustement à des fins de production et de rentabilité économique. Et en découle des politiques qui, dans les entreprises, et ça c'est vraiment des choses qu'on constate, des politiques qui aujourd'hui ont tendance à valoriser plutôt les résultats, plutôt que le goût de l'effort des salariés, leur prise d'initiative, l'ingéniosité dont ils font preuve au quotidien pour justement être en capacité de réaliser leur activité de travail dans des environnements qui sont toujours plus contraints. Pour autant, on le voit bien, c'est le cœur de notre discussion, le phénomène des quits démontre aujourd'hui l'urgence d'effectuer un retour au bon sens et de considérer le travail au-delà de sa simple valeur économique. Donc ça, pour moi, c'est un premier élément de réponse qui se joue au niveau du système, mais je suis parfaitement consciente que c'est un changement de paradigme qui ne va pas de soi. Ce qui revient à dire qu'au niveau des organisations, donc quand j'entends organisation, c'est vraiment au niveau de l'entreprise, il y a un enjeu de pouvoir admettre d'une part collectivement les limites de ce modèle à la hâte et des maux qu'il génère en entreprise. On le voit quotidiennement, que ce soit du désengagement, que ce soit des risques psychosociaux, que ce soit des dynamiques de harcèlement au travail et tous les dysfonctionnements qui peuvent en découler. Il y a un enjeu de pouvoir l'admettre, de changer de paradigme et de considérer que demain, le travail peut être autant plaisir que labeur, entre guillemets. C'est un changement qui, là encore, ne va pas de soi. Et selon ma conviction personnelle, pour faire en sorte que ce changement puisse avoir lieu et donc agir sur le modèle à la hâte, il y a une action qui pourrait être envisageable, qui est celle d'implémenter un principe de codétermination dans les instances de gouvernance. Ce principe de codétermination revient à impliquer de façon représentative dans les instances de gouvernance les salariés, les dirigeants et les actionnaires. Et c'est par ce principe de codétermination qu'on pourra agir sur le modèle à la hâte dans la mesure où les salariés seront partie prenante des décisions. On parle aussi des salariés qui, pour le coup, sont confrontés au travail réel du quotidien et qui peuvent avoir un avis ou un regard assez pertinent sur les processus qui sont mis en place dans les entreprises. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que en France, on a encore un petit peu de frilosité à pouvoir implémenter cette typologie d'instance de gouvernance de par notre ancrage culturel. Mais il faut savoir qu'en Europe et notamment en Allemagne, où il y a une maturité qui est un petit peu plus avancée sur les sujets de dialogue social, les entreprises et notamment la santé financière des entreprises se portent très bien parce que les salariés sont davantage considérés comme des partenaires plutôt que des variables d'ajustement. Donc ça, c'est ce qui se joue au niveau de l'organisation comme élément de réponse. Si on descend à un cran un petit peu plus fin qui est celui de l'équipe, ce que Corinne Godard et Serge Volkov dénoncent dans le modèle à la hâte, c'est que c'est un modèle qui individualise beaucoup. Donc quand on réfléchit de par notre prisme de salarié, on considère que si on n'arrive pas à finir notre to-do, si on n'arrive pas à faire rentrer des ronds dans des carrés dans notre agenda, c'est principalement de notre responsabilité. Donc il y a un enjeu de pouvoir discuter et aborder des conséquences du modèle à la hâte dans le cadre d'espaces de dialogue collectif pour pouvoir échanger sur ce que provoque ce modèle et pouvoir remettre le niveau de responsabilité au bon endroit. Le dernier niveau et donc le dernier élément de réponse que je peux proposer pour agir sur ce modèle à la hâte, c'est dans un premier temps faire un bon usage de son temps. Ça peut paraître un petit peu ironique, mais dans des organisations où tout devient urgent, où tout devient important, il y a un enjeu de pouvoir prioriser. Le deuxième volet, c'est cette capacité à pouvoir évaluer le temps que va nous prendre la réalisation d'une tâche. Mais là encore, on s'inscrit dans des environnements de travail qui sont mouvants et il y a bien entendu des écarts entre le travail réel et le travail prescrit. Et il faut être aussi en capacité de pouvoir alerter si tant est que l'organisation du travail nous le permet. Mais je pense que la réponse la plus importante au niveau de l'individu, le vrai enjeu, c'est d'amener la question du temps là où spontanément on ne la pose pas, c'est-à-dire au niveau de l'organisation. Et c'est là où on voit que cette grille d'analyse systémique permet de décortiquer le problème et d'identifier des actions aux différents niveaux, aux différents échelons de l'organisation.
Vous êtes l'auteur d'un autre article, il s'intitule « L'amour dure 3 ans » et file une métaphore assez saisissante entre nos relations amoureuses et professionnelles, de la passion à l'attachement jusqu'au désamour progressif. Il rejoint la préoccupation RH qui nous intéresse aujourd'hui puisque ce qu'il y a là-dessous, c'est la fidélisation des talents dans l'entreprise. Et dans cet article, vous rappelez que selon l'OCDE, la France siégerait à la 2e place du podium européen en termes de fidélisation de ses salariés, avec une moyenne assez impressionnante qui est de 12 ans passés au sein d'une même entreprise. On a tendance à se demander, quand on regarde ce chiffre, pourquoi alors cette tendance inquiète tant les entreprises. Est-ce que c'est à raison?
Je pense que à la lecture, en tout cas si on se limite à la lecture de ces chiffres, les entreprises n'auraient a priori pas trop de quoi s'affoler. Pourtant, le rapport au travail aujourd'hui évolue considérablement. On a un niveau d'exigence, que ce soit en matière d'attente sociale et sociétale, qui est toujours plus élevé. On a ces fameux curseurs d'acceptabilité au travail qui, eux aussi, se sont déplacés. Donc, je pense que c'est à raison qu'aujourd'hui, les entreprises se questionnent et qu'elles soient préoccupées sur le sujet de l'attractivité et de la fidélisation, de leurs salariés.
Passer la métaphore, vous suggérez quelques approches dans cet article qui permettraient de faire durer une relation professionnelle de la même manière qu'on pourrait agir sur la pérennité d'une relation personnelle. Est-ce que vous pourriez nous les partager?
Bien sûr, ils sont au nombre de quatre. Le premier, c'est que c'est important pour les salariés autant que pour les employeurs de s'entendre, de s'aligner sur la vision, sur les termes du contrat social qui les unit pour qu'ils soient en capacité d'avancer ensemble et ça main dans la main. Ce qui veut dire plus en détail, c'est que aujourd'hui, chaque individu évolue dans une entreprise qui est cadrée par une stratégie à moyen long terme et chaque individu doit être suffisamment informé de la vision qui découle de cette stratégie pour que chacun à son niveau, puis se projeter dans l'entreprise. Puisque c'est ce qui permettra finalement d'une part aux collaborateurs de vraiment devenir acteurs de son projet professionnel et d'autre part d'être pleinement contributeurs au projet d'entreprise. Donc c'est de se dire que dans le cadre du contrat social qui nous unit, quelles sont les compétences, quelles sont les expertises, quels sont les soft skills qui sont et seront nécessaires aujourd'hui et demain pour qu'on puisse faire perdurer cette relation au-delà du fameux cap fatidique des 3 ans. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois que les parties prenantes savent où elles vont, il y a un enjeu de pouvoir créer les conditions pour développer une culture, un environnement où chacun puisse bénéficier d'un enrichissement mutuel. Ce qui revient à ne pas limiter la relation de travail à sa seule dimension transactionnelle, entre guillemets, travail contre rémunération, mais plutôt considérer la relation comme un espace de développement professionnel où l'un se professionnalise, étaye ses connaissances, ses expertises, et l'autre bénéficie des compétences au service de la performance économique et sociale. C'est donc vraiment être en capacité de considérer la relation comme un espace de reconnaissance et de valorisation des contributions pour être en mesure de renforcer la motivation, l'engagement et surtout le sentiment de loyauté des salariés. Le troisième point que j'ai identifié, c'est que pour que chacune des parties prenantes puisse être en capacité de se projeter dans la même direction et construire hein, cette relation de réciprocité, c'est nécessaire de pouvoir écouter pour de vrai et dialoguer pour de vrai avec son collaborateur sur les préoccupations, ses envies, ses souhaits d'évolution professionnelle pour ne pas lui proposer un chemin qui serait complètement décorrélé de ses attentes. Et le dernier point, c'est que pour qu'un salarié, un collaborateur soit en capacité de se projeter, il faut que l'expérience vécue au quotidien soit cohérente avec la promesse employeur pour éviter justement tous les risques de dissonance entre la réalité et le récit employeur.
Et on file la métaphore jusqu'au bout, puisque ce que vous soulignez finalement, c'est l'importance de l'investissement mutuel dans la relation employeur-employé.
Exactement. Et si on doit reboucler du coup avec le sujet de ce podcast qui était celui des quits et finalement quelles sont les revendications qui se cachent derrière les quits, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'ils réinterrogent le rapport au travail. C'est important, je pense, de préciser que non, les Français ne sont pas en désamour du travail. Ils sont juste en attente de pouvoir mieux travailler dans de meilleures conditions, ce qui implique de re-questionner les conditions d'emploi et de travail aujourd'hui offertes par les entreprises. Et donc aujourd'hui, il y a un enjeu à ce que les entreprises, les politiques organisationnelles, les politiques RH soient en capacité de s'élever au niveau de ces fameux curseurs de l'acceptabilité au travail tels qu'ils sont revendiqués aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages, Justine Kieffer. les podcasts de la chaîne Experts et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdecideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Experts et Décideurs est une production France Défi réalisée par Circomplexe.